France Culture.
Novembre 2025. Je vous envoie ces carnets de terrain. J'embarque.
La série documentaire.
Pour une croisière sur le Danube.
Le Danube dans tous ses deltas.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, Croisier Europe.
Bonjour madame, oui.
Je souhaiterais D'accord. avoir des informations sur vos croisières sur le Danube.
D'accord, Europe du Nord, Europe centrale, pardon. Voilà, ensuite je les sur le Danube. Alors, il y a le Danube et la mer Noire, vous avez été là?
C'est à vous que j'adresse ce récit à caractère géographique. C'est une histoire située. C'est une histoire de bord, une histoire de marge. Je viens de là, de confins, d'une périphérie.
Prenez-moi votre nom, je vous prie.
Je suis Marie Guérin, G-U-E-R-I-N.
C'est breton, ça, Guérin, non?
Oui, c'est de l'Ouest. C'est pas
j'ai connu une Madame Guérin, c'est un peu Gastel d'Aoulas.
Ah, c'est pas vrai.
C'était il y a 50 ans, ça.
C'est pas possible.
Mais si, c'est dingue, hein, quand même.
Comment j'en suis arrivée là, me demanderez-vous? C'est de bon augure, je crois. À me jeter dans une odyssée danubienne, à préparer mes départs pour la Roumanie. Je vais vous raconter. C'est la série documentaire et c'est le premier épisode. C'est parti.
Dunărea este un fluviu mare. L'ați văzut, este mai lat decât alte.
Le Danube est un fleuve très large, plus large que beaucoup des fleuves français.
Asta face ca pe Dunărea românească,
dans sa partie roumaine, aucune ville n'est traversée par le fleuve.
Orașe din acestea care să fi traversat Dunărea.
Constantin Ardeleanu est originaire du port de Galați. Ce grand historien roumain a entre autres écrit sur le Danube.
Dunărea este acest bulevard al
Le Danube est comme un boulevard de l'Europe du Sud-Est.
Atât de mare încât nu a fost ușor de a fi domesticită.
Tellement grand qu'il n'est pas facile de le dompter.
Și asta face ca să existe orașe de o parte și de alta a Dunării care să fie
Il y a des villes d'un côté et de l'autre qui sont très différentes.
Legăturile dintre ele nu sunt foarte bune. Ori asta arată
Les liaisons entre elles ne sont pas très bonnes.
Frontiera Dunării, da? De spațiu care a
C'est la montre
separat de multe
le rôle de frontière que joue historiquement le Danube, un espace qui a plutôt séparé que réuni.
Dunărea trece prin 10 țări ale
un boulevard sur lequel on circule.
7 dintre ele sunt membre ale Uniunii Europene.
Mais aussi une frontière.
3 dintre ele
traverse 6 pays d'Europe. 7 sont dans l'Union Européenne et 3 ne le sont pas.
Serbia. Toate 3 au
l'Ukraine, la Moldavie et la Serbie.
Européenne. Prin care
Les trois ont des traités en cours de négociation avec l'Union européenne. Ils commencent à intégrer dans leur législation des principes européens en ce qui concerne la navigation et l'écologie. Pour la première fois dans son histoire, le Danube pourrait devenir un fleuve qui ne traverse plus des régimes politiques différents.
Prima dată în istorie să se transforme într-o zonă care să nu fie separată.
Après avoir été une frontière avec l'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire des Habsbourg.
Pentru că Dunărea a fost o frontieră a imperiilor. Aici a fost Imperiul rus, Imperiul otoman, parte din Imperiul Habsburg.
Ce qui se passe actuellement est un grand changement.
În momentul de față ceea ce se întâmplă este o schimbare importantă. N-a fost niciodată așa ceva.
Ça n'a jamais été comme ça.
Aujourd'hui, je m'apprête à quitter un bout du monde pour un autre. Une extrémité de l'Europe pour son envers. Comment j'en suis arrivée là, me demanderez-vous, à arpenter la Roumanie? Si on rembobine en 99, je pars pour un voyage universitaire. Brest est jumelé avec Constanța. Brest, Constanța, deux ports stratégiques. Miroir, Gémélité, Romulus et Rémus. Et je deviens mordu de ce bout de l'Europe. À l'époque, globalement, la Roumanie, tout le monde s'en fout. C'est à compter de ce moment-là que la Roumanie devient pour moi une initiation, un miroir, un limen, un refuge, un seuil, un guébit. Guébit, ça veut dire terrain en allemand.
Ça vient de l'école de géographie allemande.
Alors, voyons voir. Alors, on va l'ouvrir. Attends, il faut juste enlever la...
C'est avec Christophe Broquet, conservateur à l'Institut de géographie de la Sorbonne, que nous déplaçons de la salle du levant à la salle du couchant une grande carte allemande de 3 mètres par 2.
Voilà.
Elle est sortie du fond pour l'occasion, dépoussiérée.
C'est une carte au 750 000e.
Mittelropau. Béatrice von Hirschhausen, géographe, et ma clé. Elle ouvre le terrain. Avec Béatrice, du doigt.
Comme ça, parce que ça va jusqu'à la mer Baltique.
On suit les contours de ce pays.
Et on descend jusqu'au sud, jusqu'aux frontières du Danube. En fait, la frontière, ils ont...
La Roumanie.
On voit la limite du Danube, le bas Danube, et la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie.
En fait, ce n'est pas Mittelropa, mais comme elle est très abîmée en haut, on voit pas, on devine Europa, mais on ne voit pas ce qu'il y a après. Et j'arrive pas à savoir si c'est Central Europa ou...
C'est H.
Elle est magnifique. Je ne l'ai jamais vue. C'est vraiment de la cartographie allemande... De cette époque, c'est-à-dire il y a vraiment, elle a un sens du relief extraordinaire. On a l'impression qu'on la voit, enfin on voit les reliefs des Carpates surgir comme ça. C'est une très belle, un très beau dessin. Elle est très belle.
La Roumanie s'est tracée tangue avec les époques. Sur des kilomètres, près de 800, le Danube fait frontière. Et moi, je vais longer cette ligne frontière à la lisière de l'ex-Bessarabie, territoire situé entre les rivières du Prout et du Dniestr. Le territoire de l'ex-Bessarabie varie selon les périodes successives. Valaque, Moldave, Ottomane, Russe et de la monarchie roumaine. Le territoire de l'ex-Bessarabie est aujourd'hui découpé entre l'actuelle République de Moldavie et l'actuelle Ukraine. Retour à la carte. À domicile, je rencontre Jean Cellier.
Une petite chose. Boum.
Encore un géographe.
Non, mais autant...
Auteur de l'Atlas des peuples d'Europe centrale. La découverte, 1991.
Trouvé son bonheur.
Avec André Cellier et Anne Le Fur à la cartographie.
Je l'ai vu, quelque part. Ah non, c'est vrai que dans le Times Atlas, l'Europe est... Ah oui, c'est pas comme dans les... Non, l'Europe est après. Voilà, Europe. Europe. Alors, vous voulez quoi, au fond ?
Je veux principalement la Roumanie.
Ben, ça tombe bien. La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Yougoslavie. Bon, ça, évidemment... C'est un atlas que j'ai acheté d'ailleurs chez Smith, juste après la chute du mur. Et donc il y a encore l'URSS. Mais alors je ne l'ai pas payé cher. Hein. Il était en solde. Bon, bref, la Roumanie n'a pas changé de place. Hein. Donc c'est bon.
En termes géographiques, je ne suis pas géographe, je ne suis pas historienne. Comment on pourrait définir cette envie que j'ai, moi, de parler des confins ? Des bordures, des périphéries, quel serait le terme le plus approprié ? Des
c'est
zones
pas,
de marche
c'est pas,
est-ce que,
c'est pas,
qu'est-ce que
c'est
ce
pas,
truc-là ?
Non, cette Europe centrale, c'est pas un confin, c'est pas une périphérie. L'Europe centrale, c'est un espace, comme ça, qui est ouvert. Et tout le monde entre. Et hop, et tout le monde entre, tout le monde se sert, tout le monde... Ça a été ça pendant très longtemps. Mais alors, il y a des confins à certains endroits, des confins à d'autres endroits, mais les confins ont bougé, c'est tout. Ce qui est important dans cette région du monde, c'est de voir qu'il y a une zone, là, Europe centrale, oui, en gros, qui a été convoitée, envahie, estropiée, partagée... par des puissances voisines qui, pour des raisons diverses, étaient beaucoup plus fortes et beaucoup mieux armées et impérialistes, et bon, etc. C'est tout. Et ça continue, si je puis dire. Là, parce qu'avec l'Ukraine, c'est typique. Hein. Mais les Ottomans, les Allemands avaient fait pareil, hein. Certes.
En tout cas, moi, je vais essayer juste de faire parler le terrain, rencontrer les habitants.
Vous n'avez pas l'intention d'œuvrer
pour
la réunion de la Moldavie à Aix-Bessarabie, à la Grande Roumanie. Il faut pas. Effectivement, il s'agit pas de savoir, il s'agit de bien observer et d'entrer en sympathie.
Donc là, moi, je vais plutôt prendre une carte à 1/25 millième pour arpenter.
Ah ben ça, il vaut mieux, oui. Non, parce que ça ne marche pas pour...
Voilà.
Ah oui.
Donc j'ai
Mais simplement, si on arpente, on ne comprend pas forcément. Hein. Enfin, je veux dire, parce qu'on voit des lieux qui sont comme ci, comme ça. Après, il faut parler avec les habitants. Mais si vous parlez roumain, vous allez pouvoir parler même avec des Moldaves. Ah ben, sans blague.
Retour dans le fond cartographique de l'Institut de géographie à Paris.
Peut-être qu'avant, ça serait pas mal, Béatrice, vous aviez aussi choisi d'autres cartes où on pourrait visualiser la Roumanie d'abord, dans son ensemble.
Alors, on a... Ça, ce sont les cartes roumaines. Et on a ensuite une carte du réseau orographique. Enfin, ce sont des cartes du réseau orographique, en fait, de la Roumanie. Donc, celle-ci date de 1927. Ce qui est intéressant entre les deux éditions, c'est la couleur. Et la représentation des reliefs qui a été extrêmement accentuée entre 1927 et 1929. Et on a aussi... Donc, je ne lisant pas le roumain.
Mais ça va, vous devinez. Harta orographica a Roumaniei. Ça fait carte orographique de la Roumanie.
Voilà, c'est ça.
Et effectivement, il y en a une qui est monochrome et qui figure en fait les reliefs simplement par des ombres, en fait, des ombrés. Donc, et l'autre qui est en couleur et qui donc représente les reliefs avec des teintes différentes selon les altitudes. Et c'est très intéressant parce qu'on a, on voit donc ici que le seuil, mais c'est un peu comme sur la carte allemande, hein, le seuil du relief en fait, c'est-à-dire le passage du vert au brun, il se fait à 300 mètres d'altitude. Et donc c'est en fait toujours un enjeu. Quand on représente cet espace-là, en fait, le massif montagneux des Carpates forme avec le plateau transalpin au milieu une sorte de triangle ou de cercle continu. Donc, on a un massif montagneux qui est au centre des frontières de la Roumanie qui ensuite se distribue en plaine tout autour. Donc, on a une construction concentrique où les montagnes sont comme une forteresse. Et c'est un pays dont la forme a varié au cours de l'histoire et qui, dans sa forme actuelle, correspond aux frontières de 1945.
C'est la Tribune de Paris, une archive de 1946.
Il y a aussi des questions dont la conférence de Paris ne se désintéressera pas, puisque les Américains ont marqué eux-mêmes leur intention de les voir traiter. Ce sont les questions des canaux maritimes et fluviaux. Par exemple, la question du régime futur du Danube.
Donc, c'est un territoire étendu. Hein, ça fait partie des grands pays européens, 240 000 km². Au moment de l'intégration dans l'Union européenne, on a souligné l'importance de cette taille. On décrit souvent l'espace roumain comme un espace carpato-pontique ou carpato-danubien, parce que les trois grands éléments, disons, géographique, si on veut, de ce territoire, ce sont les Carpates, le Danube et la mer Noire. Et le Danube, qui est évidemment la frontière méridionale et puis qui ensuite va traverser la Roumanie en séparant la région de la Dobrogea et le reste du territoire et qui est le grand fleuve évidemment à la fois essentiel mais quelque part un peu périphérique par rapport à la géographie roumaine.
On va regarder une carte avec Constantine.
Constantine Ardeleanu parle du Danube dans son livre « Une croisière de Vienne à Constantinople, 1830-1860 ».
Si on regarde la carte des autoroutes,
o să vedem că autostrăzile
on constate qu'elles partent de Bucarest. Les autoroutes ne s'approchent pas du
Ele
Danube.
Nu se apropie de Dunăre. Ori asta înseamnă că diversele porturi dunărene
Les ports sur le Danube ne sont pas bien connectés entre eux.
Cel mai important port românesc la Dunăre este astăzi Constanța.
Le port le plus important
Pentru că atunci când a
fost actuellement Constanța.
Canalul Dunăre Marea Neagră, adică în anul 1984,
lorsque le canal Danube-Mer Noire a été finalisé
en
1984, sur le plan économique, ce n'est plus Sulina, mais Constanța qui a pris de l'importance.
Constanța este un mare port.
Constanța n'est pas seulement un port maritime,
cel mai mare port al Dunării astăzi.
C'est aussi le plus grand port danubien.
Un projet ambitieux du siècle dernier enfin réalisé. La percée d'un canal reliant le Danube à la mer Noire. Un travail gigantesque. Plus de terre a été déblayée ici que pour l'ouverture du canal de Suez. Le président Ceaușescu et son épouse numéro 2 du régime semblent satisfaits. Il y a de quoi. Une œuvre d'importance présentée comme une véritable victoire nationale. Un mot-clé ici en Roumanie qui garde jalousement son indépendance à l'égard de son voisin soviétique. Mais ce canal sera pleinement efficace après l'achèvement de la voie fluviale Rhin-Main-Danube. Alors, la mer Noire sera reliée à la mer du Nord, une nouvelle traversée de l'Europe.
On ne sait pas bien ce qui nous attache à un lieu. Pourquoi je cours après la Roumanie ? Depuis 1999, je fais des allers-retours. Ma chronologie avec la Roumanie, c'est ça. 2001.
De Watreim de Viața,
j'y fais mes premiers pas en radio.
Treime des Drept, 2003.
Vive le schnaps, vive la cochon, vive la patate.
Je traîne avec mon ami hongrois installé en Transylvanie Sicule.
L'Europe, c'est un tout petit peu loin, mais ça va venir.
2007. J'enregistre la cérémonie de l'entrée dans le lieu. Je garde en mémoire la commémoration des 30 ans de la chute du régime de Ceaușescu. Et aujourd'hui, novembre 2025,
bonjour, bienvenue à bord.
Je retrouve Axel Araskevich.
Ben là, on passe par ici.
De Croisi Europe, première compagnie européenne de bateaux à cabine. Le hasard nous a reliés, Axel et moi, dès le premier coup de fil, CF, début de l'épisode. Nous partageons en commun un lien intime avec la rade de Brest, d'où démarre ses carnets. Alors, c'est avec Axel, sur les flots de la Seine, dans le salon du Renoir, quai de Grenelle, que nous zoomons sur la carte. Et j'imagine les doigts de la rade d'où je viens correspondre aux boucles du Danube où je vais. Je vois les chevelus, terme de géographie physique, des trois rivières finistériennes que sont l'Aulne, l'Élorne, la Mignonne, qui se jettent dans la rade de Brest, se glisser dans les trois bras danubiens de Kilea, de Sulina, de Sfântu Gheorghe, pour finir par se jeter dans la mer Noire.
Place là-bas, près de la vue sur la Seine. C'est pas mal.
C'est parfait.
D'une agence à terre, on est sur un bateau à quai. Vue sur la Seine et sur la pluie, c'est pas mal, je trouve.
Mais
J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on s'imagine, qu'on ressente quand même le flot là, sous nos pieds, et qu'on s'imagine sur le Sissi ou sur le Symphonie ou qu'on s'imagine sur le Danube. Est-ce que vous avez déjà embarqué ?
Bien sûr. C'est un fleuve magique, un fleuve mythique, un fleuve vraiment iconique, qui est très vaste, qui est rythmé par beaucoup de capitales danubiennes comme Vienne, Budapest, Bratislava, et qui après va vers les portes de fer, vers la mer Noire, et nous emmène sur des paysages oniriques incroyables, avec des vastes étendues, des vastes steppes. Et puis ça se narre bien sûr, mais ça se vit surtout. Ah, parole de la chanson « Le beau Danube bleu » par Opérette. Danube bleu, si comme un dieu, on t'a chanté, cœur exalté, c'est que tes flots, rire ou sanglots, portent la vie et l'amour tout le long de ton parcours. Peut-être. Hein. J'ai un truc à vous montrer quand même, parce que ça, ça vaut le détour. Là, vous allez voir ce que je vous montre, vous allez être fiers de moi et de vous d'avoir trouvé. Il faut que je le retrouve dans mes multiples photos. Alors, à Fugasset des Houlas devant le calvaire.
Waouh ! Donc affublé en costume traditionnel de Plougastel.
Bah, évidemment.
Parce que le chemin là, qu'on va parcourir dans cette émission, c'est du Finistère au delta du Danube. D'accord. C'est le récit, d'accord. C'est le chemin.
C'est le voyage.
Avant d'embarquer sur cette drôle de croisière, je continue à déployer les cartes. On dit que la carte fait récit.
Alors, du côté roumain, dans les représentations roumaines, il y a, je dirais, trois topoi, si on veut, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a celui de la montagne et de la plaine, où la montagne est le lieu du refuge de l'identité roumaine, du bastion montagnard qui défend l'identité roumaine à l'égard des périphéries. Elle s'est reproduite après dans l'imaginaire, et notamment très très présent dans les années 90, et probablement avant, dans l'idée que les montagnes, qui n'avaient pas été collectivisées, alors que les plaines ont été précocement et rapidement collectivisées, que les montagnes étaient le lieu de refuge de la vraie roumanité contre cette emprise communiste qui, du coup, est élue comme une invasion extérieure, d'une certaine façon, c'est-à-dire en représentant l'expérience communiste et la collectivisation comme étant une expérience, la réitération, si on veut, de ces expériences de conquête répétées dans l'histoire et qui faisait que la vraie roumanité était réfugiée dans les montagnes, à la différence des plaines, voilà.
La Roumanie, ça n'est pas le roman de la construction d'un État-nation. C'est une histoire différente. D'abord une nation, puis des territoires qui s'agrègent. 1859, c'est la réunion des principautés roumaines que sont la Valachie et la Moldavie. 1866, les principautés unies de Roumanie sont reconnues par l'Empire ottoman et les autres puissances comme un seul État. 1878, à l'issue de la guerre russo-turque, la principauté de Roumanie est reconnue par l'Empire ottoman et les autres puissances comme un État souverain. 1881, le royaume de Roumanie est érigé.
Alors, vous voulez que je lise ce que mon papa a écrit ?
Si ça vous va.
Oh, moi, ça ne me dérange pas.
Je suis de retour chez Jean Cellier. Il me lit l'avant-propos de l'Atlas des peuples d'Europe centrale.
Alors, l'histoire des pays de l'Europe centrale a été souvent, et spécialement au XXe siècle, une histoire de guerre, de persécution, de massacre et de déportation. Si nous avons cherché à donner de ces événements un récit sobre, ce n'est ni par ignorance ni par indifférence. Comme beaucoup de jeunes hommes de ma génération, j'ai connu les camps de concentration. Et je voudrais, à l'occasion de ce livre, dire mon affection à Pierre Gatti de Budapest, Gatti Peter, comme on dit chez lui. Je voudrais aussi évoquer le petit groupe des Slovènes de Ljubljana et les bandes de jeunes Ukrainiens du tunnel de Dora, si démunis et si redoutables. Voilà, André Cellier, mon papa. C'est bien de me faire lire ça, parce que...
Les larmes montent aux yeux.
Oui, j'y fasse.
Comme si de rien n'était.
Si, je sais bien.
On tourne les pages de l'Atlas voulu par le père, André.
Ben merci pour votre travail de transmission.
Fabriqué par le fils Jean.
Il fallait, c'était...
L'Atlas
c'était vraiment,
est devenu best-seller. Réédité 4 fois.
Il m'a téléphoné, mon père, il m'a téléphoné, il m'a dit « on devrait faire ça ». Et aussitôt, j'ai dit « on le fait ». Allez, tchoup là. Et il se passionnait pour l'Europe centrale.
Pourquoi
ça, alors là, je ne sais pas. Mais c'était, ça le fascinait, lui qui habitait à Amiens, fils d'ouvrier, à Amiens, et... Au moment de la chute du mur, il s'est trouvé à Berlin. Et quand il est rentré, il m'a téléphoné et il m'a dit « Jean, toi qui sais faire des bouquins, il y a un bouquin à faire sur tous ces peuples d'Europe centrale qui étaient derrière le rideau de fer. On n'y comprenait rien, on ne voyait pas. » Non, mais surtout, ce qui était important, c'est que on aborde l'histoire de cette région d'Europe autrement que dans l'enseignement traditionnel. Dans l'enseignement traditionnel, de quoi on parle ? On parle, il y a les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Turcs, bon, et on dit, et tous ces braves gens, et les Lituaniens, les Slovaques, les tout ça, ah, on n'en parle pas. Donc l'idée, c'était de faire exactement le contraire. Et après, j'ai été critiqué, parce qu'il y a des profs qui ont dit « Mais enfin, on ne raconte pas l'histoire comme ça, on ne parle pas des Allemands, on ne parle pas des Russes. » J'ai dit « J'en ai rien à foutre, je parle des petits, pas des gros. » Bon, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ça l'idée, et à juste titre.
Hein. Comment oui on peut se lancer dans de telles... sommes dans de telles aventures, un atlas.
Je sais pas, moi, c'est-à-dire que j'ai envie de... Oui, de comprendre. Donc, pour comprendre, ça veut dire qu'on découpe le sujet en morceaux, en portions, et puis on les assemble les unes aux autres. On a à la fois de l'histoire, c'est-à-dire de la chronologie, des faits qui s'enchaînent, et des cartes. Bon.
Pourquoi s'attache-t-on à un pays ? Qu'est-ce qui nous retient ?
Donc, nous partons dans une semaine, on arrive à Galatz. On va croiser des frontières actuelles, mais des frontières fantômes. On est au bout de l'espace Schengen, à peu près. En tout cas, on ira à Kiliaveke, qui sera au bout de l'espace Schengen, de l'Union européenne. Ça, c'est aussi une frontière. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler, comme vous en parlez si bien dans les provinces du temps, de ce que de l'idée de frontières fantômes, parce que là on va en croiser, on n'arrivera même pas à les décrypter, à les lire, mais elles seront peut-être dans les gestes, dans les gens, dans les langues.
Frontières fantômes, ce que j'ai appelé frontières fantômes, ce sont les traces, alors qui peut être multiples, on va essayer de le décliner, les traces de frontières ou de territorialités défuntes qui ont une forme de vie post-mortem, si vous voulez, dans les territoires, alors dans les sociétés, dans les paysages. C'est peut-être là d'abord qu'on les perçoit. quand vous allez franchir et que vous allez vers la Dobroja, vous percevrez un changement d'univers, je pense. Hein. Quand on passe, je pense que la trace ottomane, elle est repérable dans le paysage. Il reste aussi quelques mosquées, par exemple. Mais voilà, donc elle se repère dans le paysage, mais elle se repère, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, elle se repère de façon épisodique, assez imprévisible, dans des pratiques, des comportements. Alors, nous l'avons beaucoup travaillé dans notre projet de recherche sur les comportements électoraux, c'est-à-dire on ne vote souvent pas de la même manière, de part et d'autre d'une ancienne frontière, mais tantôt oui, tantôt non, ça dépend des scrutins. Voilà, donc là, les derniers scrutins, par exemple, ont fait apparaître des formes de spécificité régionale qui redessinent les traces de ces frontières. Et donc, aussi peut-être dans des pratiques. Alors moi, j'ai travaillé sur les stratégies de modernisation des maisons. Et très curieusement, on voit apparaître des différences qui n'existaient pas, qu'on ne voyait pas en tout cas jusque dans les années 2000 et qui sont apparues dans la manière dont les villageois, les paysans, modernisent leurs maisons. Donc voilà, ces fantômes, ils sont tout à fait intéressants à travailler. Alors c'est une forme de, ça pourrait ne constituer que des sortes de curiosités de cabinet, hein, c'est-à-dire des sortes de voilà d'étrangetés que les géographes aiment bien quelquefois repérer sur les cartes. Mais je crois que ça nous permet après de poser quantité de questions sur la manière dont les sociétés sont aussi inscrites dans l'espace, dans les territoires, et la manière dont ces territoires aussi contribuent à forger, d'une certaine façon, leur manière d'être et leur manière de faire.
Qu'est-ce qui nous situe ? La géolocalisation de notre téléphone ? Un point GPS ? Appartient-on à un territoire ? Ou bien est-ce le territoire que l'on habite qui nous appartient ?
Vous voyez, encore une fois, cette vision esthétique, panoramique, et hop, tout de suite, la vision par coupe.
Pour préparer mes départs.
Il a l'œil aiguisé. Voilà, ça demande un entraînement, hein, cet œil de géographe.
Je retourne à l'Institut de géographie à Paris.
Voilà, tchic, 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 les plateformes qu'il a pu reconnaître.
Gaëlle Allaire, géographe.
C'est incroyable. La couleur, elle n'a pas perdu. Elle est... Oh là là, c'est impressionnant.
Et la première à défricher les carnets de terrain d'Emmanuel de Martonne. Emmanuel de Martonne est un géographe français, élève de Vidal de la Blache. Il est l'un des premiers à aller sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est apporter des preuves. Son terrain, c'est la Roumanie.
Voilà, je m'en lasse pas, j'en profite. C'est rare qu'on ait accès à l'archive comme ça.
Et il ne pensait pas que ce serait ouvert par nous ce jour de 2025. Voyage dans le temps.
Ah oui, il y a plus d'un siècle. Oui, c'est une archive privée. On a vraiment accès à vraiment l'intimité, parce que ce n'était pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre que lui. Donc là, vous avez vraiment l'accès à une archive extrêmement intime. C'est particulièrement émouvant.
Donc là, ces terrains sont,
je dirais, la région Rodna, Bukovine, Bessarabie du Nord.
Donc, qu'on est en 1921.
Juste après la Première Guerre mondiale, la Roumanie vient de doubler sa superficie, doubler son nombre d'habitants, grâce au redécoupage territorial de l'Europe centrale, découpage auquel de Martonne a participé en tant qu'expert.
Emmanuel de Martonne participe aux côtés du général Bourgeois, chef du service géographique de l'armée, au redécoupage de la Roumanie en 1919. Traceur de frontières, père des frontières roumaines, la carte est un outil de propagande et la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Est-ce que vous seriez d'accord de me lire ça justement ? On est en 1920, c'est au moment du congrès de la paix,
Alors, essai de carte ethnographique des pays roumains. La dernière année de la Grande Guerre et celle du Congrès de la Paix ont vu paraître, parmi un flot d'ouvrages de propagande, de nombreuses cartes ethnographiques, dont quelques-unes très sérieusement établies. En essayant de représenter moi-même les conditions ethnographiques d'une des régions les plus mêlées de l'Europe orientale, j'ai été amenée à une étude critique des essais antérieurs, et il a paru que les conclusions de cet examen préliminaire pourraient être utilement présentées au public. Mais en tout cas, en tant qu'expert, il a apporté un soutien, c'est vrai, plutôt aux Roumains, dans la manière dont il a représenté la Roumanie, avec un choix de langage cartographique. Cette carte a pu contribuer à orienter, à faire croire en tout cas que les Roumains occupaient beaucoup d'espace et étaient majoritaires. Voilà, De Marton a quand même poussé à ce que la Roumanie ait cette forme ronde qu'il estimait parfaite. Il n'y a pas que ça qui a joué, bien sûr. Lui, il voyait en tant que géographe des complémentarités. Géographie physique, mais aussi humaine. C'est quelqu'un qui cherchait vraiment à comprendre la personnalité géographique d'une région. Et c'est vraiment ce qui ressort de l'école française de géographie, associée géographie physique, géographie humaine. Et ça ressort dans ses carnets.
Il souhaite récupérer la Bessarabie, et là on a ouvert un carnet d'une expédition en Bessarabie, la Dobroudja, donc au bout du delta du Danube, la Transylvanie et le Banat.
Voilà. Ça va vous récupérer un peu à l'est, surtout parce qu'il a la vision qui est partagée par l'état-major, c'est faire un barrage au communisme. Ça, c'est très important.
En tout cas, on a l'excursion qui chauffe actuellement. La Bessarabie est une question qui ressurgit.
Oui, comme quoi c'est toujours d'actualité, plus de 100 ans après. Et là, vous l'avez sur la fin, hein, la fin du carnet, il arrive à la frontière avec la Bessarabie. Et c'est vous ce qui va vous intéresser dans votre voyage.
On sera là.
Exactement là. Ah oui, mais c'est émouvant aussi de pouvoir. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, c'est-à-dire reprendre les carnets et puis refaire l'itinéraire.
Je continue à déplier les cartes de la Roumanie, toutes celles qui s'offrent à moi.
Alors, la carte. Voyons.
On dit que la carte fait récit. Et c'est là.
On n'est pas à la bonne échelle.
On n'est pas à la bonne échelle, exactement.
Que s'inscrit le récit de Sondra Parvon.
La Roumanie est coupée en deux.
Oui, vous faites bien de le remarquer.
Architecte, chercheuse.
Donc, Chișinău est là. Et mon village est quelque part proche de Berești.
Le récit de la famille de Sondra épouse les trajectoires qu'imposent les nouvelles frontières tracées par le géographe de Marton.
Et donc, comme mon père était né dans l'entre-deux-guerres, il est né en Roumanie, la famille était roumaine, mais il est né dans ce territoire qui a par la suite été perdu, du point de vue roumain.
Un jour, Sondra décide de retracer le chemin que fit son père pour quitter son village natal bessarabien, devenu soviétique. Elle fait le chemin à pied, accompagnée d'un artiste moldave, Gennady Popescu. Il filme leur tracé.
Et donc, je lui ai proposé, s'il le voulait bien, de partir de Chișinău et de retracer ce chemin que mon père avait fait en temps de guerre. Pour rentrer dans le village de mes grands-parents. Donc mon père étant né entre les deux guerres, c'était le moment où ce qui s'appelait la Bessarabie à l'époque faisait partie de ce qu'on a appelé la Grande Roumanie, qui était effectivement tracée en partie grâce au travail que et aussi à toute la démarche politique que Emmanuel de Marton avait mise en place parmi d'autres pour soutenir les demandes de la Roumanie vis-à-vis de certains territoires, notamment celui de la ce qu'on a appelé la Bessarabie, et qui est aujourd'hui qui a été après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, là, est devenue la République socialiste moldave, donc qui faisait partie de l'Union soviétique.
Il est né en quelle année, votre père ?
Il est né en 1938.
Il s'appelle comment ?
Aurel.
Aurel.
Un village natal qui change d'appartenance, un village qui change les couleurs du drapeau national. Est-ce encore le village natal ? Est-ce encore la maison de famille quand on vide les lieux ? Comment la géographie s'inscrit-elle dans nos lignes de vie et pour combien de temps ? Une nouvelle frontière, ça dévie des trajectoires, ça coupe, ça déplace, ça fracture en mille morceaux les micro-histoires, les familles, et ça ricoche sur plusieurs générations.
On vous appellera depuis Grindou aussi, on va aller à Grindou.
Oui, très bien.
Vous y êtes déjà allé ?
Non. J'ai pas traversé là. Vous devez traverser le fleuve.
Il y a un bac.
Ouais. Non, je suis jamais allée de l'autre côté. Étonnamment. Mais en fait, j'y suis jamais allée pour perdre du temps, en fait. C'est ça. Enfin, je dis pas que c'est votre cas, mais pour déambuler un peu comme ça. Voir un peu dans quelle direction le vent souffle, rencontrer des gens.
Sur les quais de Seine, mes malles. Dans mes malles, des micros, Jules Verne et son beau Danube jaune, Panaïti Strati et ses départs, Kapka Kassabova et ses lisières.
L'idéologie la plus évidente lorsqu'il s'agit de frontières est le nationalisme. La frontière est là pour séparer un État-nation d'un autre. Mais il existe une idéologie plus insidieuse dans les faits. Le centralisme. La croyance que le pouvoir central peut, en toute impunité, donner des ordres à distance et sacrifier la périphérie.
Et le Danube de Claudio Magris.
Le voyage est un voyage à travers l'autre Europe, guillemets. Et je crois que le livre est aussi la tentative, une tentative de faire comprendre qu'il s'agit tout simplement de l'Europe. Il ne faut pas oublier les autres pays et nations de l'Europe centrale et orientale qui étaient cachés et oubliés. Bien sûr, c'était la faute du totalitarisme, mais c'était aussi un certain inconscient mépris vers tout ce qui était à l'Est.
Oui, alors c'est évidemment l'objet de très gros débats, de savoir finalement comment penser les différences entre les sociétés. Et que très vite, on peut tomber dans des formes d'orientalisme, c'est-à-dire qui vont inscrire ces territoires dans une trajectoire historique où il y aurait des territoires qui seraient plus en avance et des territoires qui seraient en retard. La critique depuis au moins Édouard Saïd et son ouvrage très célèbre sur l'orientalisme a montré à quel point c'était des constructions intellectuelles, des constructions portées par les élites à la fois intellectuelles mais aussi politiques, qui avaient permis d'instituer, disons, une sorte de supériorité de l'Occident. Et donc, ma foi, quand on va vers ces périphéries, et là, quand on va vers ces bords actuels de ces frontières de l'Union européenne, parfois on serait vers des régions qui seraient en retard sur le reste des territoires. Donc évidemment, ça n'est pas tenable d'un point de vue éthique, si vous voulez, mais ça ne tient pas non plus du tout d'un point de vue scientifique. Et cette controverse a finalement un peu polarisé, mais on a ça un peu encore aujourd'hui, le champ scientifique entre deux postures, si vous voulez, une posture de déconstruction des discours et une posture qui cherche à analyser, à comprendre pourquoi des sociétés sont différentes. Et donc, dans notre projet collectif, on était historien et géographe, on a travaillé sur cette idée des frontières fantômes. On a essayé de montrer qu'en fait, on ne pouvait pas renvoyer dos à dos les discours et les différences d'ordre structurel. Il fallait essayer, au contraire, de les comprendre ensemble. Et ce qui était intéressant dans la métaphore du fantôme, c'est que le fantôme, il est à la fois, c'est une présence du passé, c'est un corps qui nous vient du passé. Donc, il y a une manifestation du passé. Et en même temps, on ne sait jamais quand on voit un fantôme si c'est le résultat d'un fantasme dans notre cerveau. Et en fait, c'est de travailler sur cette double nature, à la fois imaginaire et quasi territoriale, physique, si vous voulez. Et voilà.
Par l'intermédiaire d'Axel, je rentre en contact avec l'équipe embarquée de CroisiEurope. Est-ce qu'on pourrait appeler Isvan ensemble? Non,
non, parce que là, on va essayer de le joindre. Mais je crois que là, vous savez, sur un bateau, on travaille. Hein. Et puis, il y a des passagers, il y a des gens. Bon, on va appeler Isvan. Bon.
Avant le départ...
Mais Axel, qu'est-ce que tu fous? Tu m'as dit ce matin que... Je vais pas aller au parc d'Aurélie.
Je cherche la clé du port de Galatz.
Je le mettrai quand il saura que vous êtes là.
Où j'arriverai dans quelques jours. Allô, Isvan?
Oui, c'est moi. Bonjour, Marie.
Bonjour, Isvan. Merci de prendre le temps. Donc, vous naviguez sur le Danube, on est bien d'accord, hein?
Oui. Je suis bateau sur le Danube.
Et le Danube roumain?
Danube roumain, Danube bulgare, voilà. Serbe, croate, hongrois et voilà. Donc, slovaque, autrichienne.
D'accord. Eh bien, moi, je vais partir. Là, je vais arriver dans le port de Galatz dans quelques jours. Et c'est vous qui gérez les relations à l'arrivée dans les ports, par exemple, de Galatz?
Non, c'est le responsable de navigation qui s'appelle Rudy Preman.
CroisiEurope, Rudy Preman. Allô?
Hello, Rudy. Marie. Hello.
Hello, Marie.
Are you on board?
No, I'm at home. Organizing already the
Rudy Preiman est capitaine. Il me raconte que les circuits sont modifiés depuis 2022. De l'extension de l'invasion de l'Ukraine par les Russes.
Quand tu arrives jusqu'à Kiliavec et à Sulina ou à Constanța, tu comprends ce que la diversité européenne veut dire. Pour parler de l'unité et de diversité, comme un slogan européen. Les changements que nous avons vus ces 35 dernières années sont incroyables. Ici, en 89, il y avait le pacte de Varsovie. Nous étions prêts à affronter le méchant Occident. Le voyage était plus facile en 1830 qu'en 1989.
Et pour moi, dans mon voyage, ça va être plus compliqué qu'en 1830 de voyager ? Quand même pas. Avec un micro en plus.
Da,
je
pense que c'est plus simple maintenant.
Simple. Acum, dacă ne referim la zona Schengen. La
si l'on se réfère à l'espace Schengen.
Unul dintre avantajele mari ale călătoriei pe Dunăre.
En 1830, pour voyager sur le Danube, l'un des grands avantages, c'était la simplicité des démarches administratives.
Cumpărai bilet,
tu achetais un billet,
arătai pașaportul,
tu montrais le passeport et tu allais jusqu'à Istanbul.
Și te duceai până la Istanbul.
Grâce à ce chemin, il a rendu justice à tout ce qui vient de la lumière. Ici une prairie, là-bas un village ou le début d'une banlieue. Les lisières,
grâce
les frontières,
à ce chemin,
les
il a rendu justice
les lignes
à tout ce qui vient de la lumière.
Les côtes, les
ici
rizières,
une prairie,
les fleuves,
là-bas un village ou le début d'une banlieue. Les lisières, les frontières, les sentiers, les lignes ferroviaires, les côtes, les rivières, les fleuves pluralisent et multiplient la beauté. Pierre Sansot, le flâneur des confins, oui. Oui, c'est une attention. Il y a cette tradition dans la géographie, cette attention à la présence à l'espace. Alors, et puis aussi de faire parler les habitants et les habitantes sur leur lieu, sur leurs espaces de vie, leur vécu, leur expérience de l'espace, leur expérience située. Et en fait, c'est très, très riche pour essayer de saisir en fait, des formes d'insaisissables aussi. Si on se contente de compter ou de mesurer ou de quantifier. Donc, essayer de tenir un peu les deux bouts de la construction d'un savoir géographique.
Écoutez, ben ça paraît tellement facile d'écouter. Mais écoutez...
Pierre Sansot,
ça veut dire cela.
En 1998.
Écoutez, c'est pas seulement dans l'oreille, c'est en soi. Creuser une sorte de vide, une sorte d'espace d'accueil, à tel point que l'autre pourra s'y poser. De même qu'il faut un certain espace pour que le regard voit le proche et le lointain. Il faut démultiplier comme ça les positions. C'est la même chose pour mentalement. Si vous avez fait le vide, un vide attentionné, l'autre pourra y poser sa parole et être au mieux de lui-même. Il y a comme ça des gens auprès desquels on devient plus intelligent. Parce qu'on sait qu'il y a cet espace-là.
Pourquoi s'attache-t-on à un pays? Qu'est-ce qui nous retient? Je pars faire un point sur la situation.
C'est un pays qui, en fait, a transformé mon regard sur l'espace. Parce qu'il me semble que quand on est dans des espaces comme l'espace français, où il y a une sorte de congruence dans la longue durée, du politique, de l'espace, du territoire, de la société, enfin, même s'il y a quelques ruptures historiques majeures, quand même, il y a une forme de continuité. Quand on est dans des... Quand on s'immerge dans des sociétés qui, au contraire, ont été marquées par les successions des ruptures, des influences, tantôt ottomanes, tantôt austro-hongroises, tantôt russes, tantôt occidentales, puisque la matrice occidentale a énormément imprégné la société roumaine, ces sociétés, finalement, elles nous apprennent énormément. D'abord, elles nous apprennent énormément sur le rapport à l'histoire, je crois. Elles nous apprennent à perdre l'arrogance. Et puis... Elles nous apprennent aussi énormément sur ce que c'est d'être ici. Qu'est-ce que ça veut dire d'être d'un territoire et d'être ici? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça implique sur le devenir personnel, individuel, collectif? Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant quand on essaie de comprendre un peu la diversité du monde comme géographe.
Et alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Dans les provinces du temps, cette très belle, très très belle citation de Braudel. Le rôle de l'espace est de ralentir le temps. Fernand Braudel.
Alors, je ne sais pas si le rôle de l'espace est de ralentir le temps. Quelque part, l'espace, quelquefois, emprisonne le temps. Ça, c'est une citation aussi de Violette Ray. C'est-à-dire que dans les territoires qui ont connu un très grand nombre de ruptures, en fait, on a des formes de fragments de temps dans l'espace. Des fragments de temps qui renvoient à une époque particulière. Ça a été travaillé justement par Violette Ray ou par d'autres géographes qui ont essayé de travailler sur la manière dont on lit quelque part le temps dans l'espace.
Oui, allô?
Bonjour Sergio, c'est Marie Guérin.
Bonjour Marie.
Sergio Michkoyou, chercheur en sciences politiques. Le départ est dans quelques jours. Je serais ravie, si vous êtes partant, de vous avoir à chaque épisode, de vous avoir au téléphone. Ce serait court, mais avoir un petit peu la température au moment où j'y serai vraiment sur le terrain. Voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et notamment à l'est, dans le delta du Danube et à Galate, là, c'est des régions très marquées par les drones, des morceaux des drones qui tombent, des alertes tout le temps. Donc ça va être très, très intéressant.
Les marges, on est aux marges, dans les marges, ouais.
En marge, et la crainte d'une guerre avec la Russie très forte là-bas.
Aujourd'hui à 11h57.
Je suis documentariste. Je ne suis pas journaliste de métier ni de formation. C'est-à-dire que je ne couvre ni l'actu ni le chaud. Là, je me dirige à la limite du chaud, dans ses vapeurs, à son seuil. Je prépare le voyage vers le point de séparation entre le chaud, le froid,
entre les rives, dans une zone de flou.
Non.
Donc on part.
Mais tu sais, on peut pas marcher au vent.
Sur une zone de marche. C'est ça, surtout.
Une marche d'empire.
Une marche d'empire.
Et une marche d'empire, oui, c'est toujours des lieux tout à fait, intéressants parce qu'il y a quelque chose qui reste et qui flotte un peu dans les lieux. Et puis vous êtes vraiment sur une marche d'empire et vous êtes quelque part aussi dans une sorte d'espace. Enfin, c'est une sorte de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est un recoin, enfin quelque chose. Enfin, c'est un espace qui est un peu à la périphérie, qui est un peu oublié, où les gens ont cette conscience aiguë d'être sur des périphéries en fait. Et ça change, je pense, le rapport au monde quand on sait qu'on est sur un endroit qui est voilà une sorte de bout du monde aussi.
Non. Voilà. Allô, allô, c'est le début de ces carnets de terrain. C'est le jour J. C'est un récit à caractère géographique.
Brest, 16h04.
Je souhaite tracer un chemin entre la rade de Brest et le delta du Danube.
Voilà, je suis sur le seuil de mon départ. Et une voix vient de s'éclipser. Éric Marchand vient de mourir, en Roumanie.
Le jour de mon départ, la voix du grand chanteur et collecteur de musique traditionnelle bretonne, Éric Marchand s'éteint en Roumanie.
Je fais mon dernier bagage. Je prends une carte et la voix d'Éric dans ma playlist.
Correspondance.
La voix d'Éric et ses amis du Taraf de Karan Sebesh.
Synchronicité.
C'est à 90 km d'Orchova. C'est à 90 km du Danube. Moi, je vais suivre le Danube, mais à l'opposé du pays. Je vais tirer le fil du Danube. À bientôt.
De Brest à Galatz, il y a 3077 km. Quand vous les recevrez, ces carnets, ce sera déjà du passé. C'était Le Danube dans tous ses deltas de Marie Guérin, réalisation Gilles Mardi-Rossian. Chargée de programme,
Marie-Vena Bolivier, Anaï Morales.
Coordination,
Emmanuel Laurentin.
Documentation INA,
Clarie Monac.
Collaboration prise de son,
Nathalie Battus.
Prise de son studio,
Bruno Mourlon.
Mixage,
Alison Ascrisi.
Avec les voix de
Madalena Constantine, Marilena Ivan, Liviu Bora.
Merci à tous les gens rencontrés sur le terrain.
Que la trazure au fer n'est-ce que